Chapitre 7, Transfiguration, les deux frères. Après qu'elle eut fait sa prière, la compagne de Remi se souleva si belle et si radieuse que le comte laissa échapper un cri de surprise et d'admiration. Elle paraissait sortir d'un long sommeil dont les rêves auraient fatigué son cerveau et altéré la sérénité de ses traits, sommeil de plomb qui imprime au front humide du dormeur les tortures chimériques de son rêve. Ou plutôt c'était la fille de Jaïr, réveillée au milieu de la mort sur son tombeau et se relevant de sa couche funèbre, déjà épurée et prête pour le ciel. La jeune femme sortie de cette léthargie promena autour d'elle un regard si doux, si suave et chargé d'une si angélique bonté que Henri, crédule comme tous les amants, se figura la voir s'attendrir à ses peines et céder enfin à un sentiment, sinon de bienveillance, du moins de reconnaissance et de pitié. Tandis que les gendarmes, après leur frugal repas, dormaient çà et là dans les décombres, tandis que Remi lui-même cédait au sommeil et laissait sa tête s'appuyer sur une traverse d'une barrière à laquelle son banc était appuyé, Henri vint se placer près de la jeune femme et d'une voix si basse et si douce qu'elle semblait un murmure de la brise. « Madame, dit-il, vous vivez. Oh, laissez-moi vous dire toute la joie qui déborde de mon cœur lorsque je vous regarde ici en sûreté, après vous avoir vu là-bas sur le seuil du tombeau. » « C'est vrai, monsieur, répondit la dame, je vis par vous, et, ajouta-t-elle avec un triste sourire, je voudrais pouvoir vous dire que je suis reconnaissante. » « Enfin, madame, reprit Henri, avec un effort sublime d'amour et d'abnégation, quand je n'aurai réussi qu'à vous sauver pour vous rendre à ceux que vous aimez. » « Que dites-vous ? Demanda la dame. « À ceux que vous alliez rejoindre à travers tant de périls, ajouta Henri. « Monsieur, ceux que j'aimais sont morts, ceux que j'allais rejoindre le sont aussi. »« Oh, madame, murmura le jeune homme en se laissant glisser sur ses deux genoux, jetez les yeux sur moi, moi qui ai tant souffert, sur moi qui vous ai tant aimé. Oh, ne vous détournez pas, vous êtes jeune, vous êtes belle, comme un ange des cieux. Lisez bien dans mon cœur que je vous ouvre, et vous verrez que ce cœur ne contient pas un atome de l'amour comme le comprennent les autres hommes. » Vous ne me croyez pas? Examinez les heures passées, pesez-les une à une. Laquelle m'a donné la joie, laquelle l'espoir, et cependant j'ai persisté. Vous m'avez fait pleurer, j'ai bu mes larmes. Vous m'avez fait souffrir, j'ai dévoré mes douleurs. Vous m'avez poussé à la mort, j'y marchais sans me plaindre. Même en ce moment où vous détournez la tête, où chacune de mes paroles, toutes brûlantes qu'elles soient, semble une goutte d'eau glacée tombant sur votre cœur, mon âme est pleine de vous, et je ne vis que parce que vous vivez. Tout à l'heure, n'allais-je pas mourir près de vous? Qu'ai-je demandé? Rien. Votre main, l'ai-je touchée? Jamais autrement que pour vous tirer d'un péril mortel. Je vous tenais entre mes bras pour vous arracher des flots. Avez-vous senti l'étreinte de ma poitrine? Non, je ne suis plus qu'une âme, et tout en moi a été purifié au feu dévorant de mon amour. Oh, monsieur, par pitié, ne me parlez point ainsi. Par pitié aussi, ne me condamnez point. On m'a dit que vous n'aimiez personne. Oh, répétez-moi cette assurance, c'est une singulière faveur, n'est-ce pas, pour un homme qui aime de s'entendre dire qu'il n'est pas aimé. Mais je préfère cela, puisque vous me dites en même temps que vous êtes insensible pour tous. Oh, madame, madame, vous qui êtes la seule adoration de ma vie, répondez-moi. » Malgré toutes les instances de Henri, un soupir fut la seule réponse de la jeune femme. « Vous ne me dites rien, reprit le comte. Remi, du moins, a eu plus de pitié de moi que vous. Il a essayé de me consoler, lui. » Oh, je le vois, vous ne me répondez pas parce que vous ne voulez pas me dire que vous alliez en Flandre joindre quelqu'un de plus heureux que moi qui suis jeune cependant, que moi qui porte en ma vie une partie des espérances de mon frère, que moi qui meurs à vos pieds sans que vous me disiez « j'ai aimé, je n'aime plus » ou bien « j'aime, mais je cesserai d'aimer ». Monsieur le comte, répliqua la jeune femme avec une majestueuse solennité, Ne me dites point de ces choses qu'on dit à une femme. Je suis une créature d'un autre monde et ne vis point en celui-ci. Si je vous avais vu moins noble, moins bon, moins généreux, si je n'avais pour vous, au fond de mon cœur, le sourire tendre et doux d'une sœur pour un frère, je vous dirais, levez-vous, monsieur le comte, et n'importunez plus mes oreilles qui ont horreur de toutes paroles d'amour. Mais je ne vous dirai pas cela, monsieur le comte, car je souffre de vous voir souffrir. Je dis plus, à présent que je vous connais, je vous prendrai la main, je l'appuierai sur mon cœur, et je vous dirai volontiers, voyez, mon cœur ne bat plus. Vivez près de moi si vous voulez, et assistez jour par jour, si telle est votre joie, à cette exécution douloureuse d'un corps tué par les tortures de l'âme. Mais ce sacrifice que vous accepteriez comme un bonheur, j'en suis sûr. Oh oui, s'écria Henri. Eh bien, ce sacrifice, je dois le repousser. Dès aujourd'hui, quelque chose vient d'être changé en ma vie. Je n'ai plus le droit de m'appuyer sur aucun bras de ce monde, pas même sur le bras de ce généreux ami, de cette noble créature qui repose là-bas et qui a pendant un instant le bonheur d'oublier. Hélas, pauvre Remy, continua-t-elle en donnant à sa voix la première inflexion de sensibilité que Henri eut remarquée en elle, pauvre Remy, ton réveil à toi aussi va être triste. Tu ne sais pas les progrès de ma pensée, tu ne lis pas dans mes yeux, tu ne sais pas qu'au sortir de ton sommeil, tu te trouveras seul sur la terre, car seul je dois monter à Dieu. « Que dites-vous ? S'écria Henri. Pensez-vous donc à mourir aussi, vous ? » Remy, réveillé par le cri douloureux du jeune comte, souleva sa tête et écouta. « Vous m'avez vu prier, n'est-ce pas ? » continua la jeune femme. Henri fit un signe affirmatif. Cette prière, c'était mes adieux à la terre. Cette joie que vous avez remarquée sur mon visage, cette joie qui m'inonde en ce moment, c'est la même que vous remarqueriez en moi si l'ange de la mort venait me dire « Lève-toi, Diane, et suis-moi au pied de Dieu. » « Diane, Diane, » murmura Henri, « je sais donc comment vous vous appelez. Oh, Diane, non chérie, non adorée. » Et l'infortuné se coucha au pied de la jeune femme, en répétant ce nom avec l'ivresse d'un indicible bonheur. « Oh, silence !» dit la jeune femme de sa voix solennelle, « oubliez ce nom qui m'est échappé. Nul parmi les vivants n'a droit de me percer le cœur en le prononçant. « Oh, madame, madame !» s'écria Henri, « maintenant que je sais votre nom, ne me dites pas que vous allez mourir !»« Je ne dis pas cela, monsieur, » reprit la jeune femme de sa voix grave, « je dis que je vais quitter ce monde de larmes, de haine, de sombres passions, d'intérêts vils et de désirs sans nom. Je dis que je n'ai plus rien à faire parmi les créatures que Dieu avait créées, mes semblables. Je n'ai plus de larmes dans les yeux. Le sang ne fait plus battre mon cœur, ma tête ne roule plus une seule pensée, depuis que la pensée qui l'emplissait tout entière est morte. Je ne suis plus qu'une victime sans prix, puisque je ne sacrifie rien, ni désir, ni espérance, en renonçant au monde. Mais enfin, tel que je suis, je m'offre au Seigneur. Il me prendra en miséricorde, je l'espère, lui qui m'a fait tant souffrir et qui n'a pas voulu que je succombasse à ma souffrance. » Remy, qui avait écouté ces paroles, se leva lentement et vint droit à sa maîtresse. « Vous m'abandonnez, » dit-il d'une voix sombre. « Pour Dieu, » répliqua Diane, en levant vers le ciel sa main pâle et amaigrie comme celle de la sublime Madeleine. « C'est vrai, » répondit Remy, en laissant retomber sa tête sur sa poitrine. « C'est vrai. » Et comme Diane abaissait sa main, il la prit de ses deux bras, l'étreignit sur sa poitrine comme il eût fait de la relique d'une sainte. « Oh, que suis-je auprès de ces deux cœurs ? » soupira le jeune homme avec le frisson de l'épouvante. « Vous êtes, » répondit Diane, « la seule créature humaine sur laquelle j'ai attaché deux fois mes yeux depuis que j'ai condamné mes yeux à se fermer à jamais. » Henri s'agenouilla. « Merci, madame, » dit-il, « vous venez de vous révéler à moi tout entière. Merci, je vois clairement ma destinée. À partir de cette heure, plus un mot de ma bouche, plus une aspiration de mon cœur ne trahiront en moi celui qui vous aimait. Vous êtes au Seigneur, madame, je ne suis point jaloux de Dieu. » Il venait d'achever ses paroles et se relevait, pénétré de ce charme régénérateur qui accompagne toute grande et immuable résolution, quand dans la plaine, couverte encore de vapeurs qui allaient s'éclaircissant d'instant en instant, retentit un bruit de trompettes lointaines. Les gendarmes sautèrent sur leurs armes et furent à cheval avant le commandement. Henri écoutait. Ah, messieurs, messieurs, s'écria-t-il, ce sont les trompettes de l'amiral. Ah, je les reconnais, je les reconnais. Ah, mon Dieu Seigneur, puissent-elles m'annoncer mon frère? Vous voyez bien que vous souhaitez encore quelque chose, lui dit Diane, et que vous aimez encore quelqu'un. Pourquoi donc choisiriez-vous le désespoir, enfant, comme ceux qui ne désirent plus rien, comme ceux qui n'aiment plus personne? Un cheval, s'écria Henri, qu'on me prête un cheval. Mais par où sortirez-vous? Demanda l'enseigne, puisque l'eau nous environne de tous côtés. Vous voyez bien que la plaine est praticable, vous voyez bien qu'ils marchent, eux, puisque les trompettes sonnent. Montez en haut de la chaussée, monsieur le comte, répondit l'enseigne. Le temps s'éclaircit, et peut-être pourrez-vous voir. J'y vais, dit le jeune homme. Henri s'avança, en effet, vers l'éminence désignée par l'enseigne. Les trompettes sonnaient toujours par intervalles, sans se rapprocher ni s'éloigner. Remy avait repris sa place auprès de Diane. Un quart d'heure après, Henri revint. Il avait vu, et chacun pouvait le voir comme lui, il avait vu sur une colline, que la nuit empêchait de distinguer, un détachement considérable de troupes françaises cantonnées et retranchées. À part un large fossé d'eau qui entourait le bourg occupé par les gendarmes d'Aunis, la plaine commençait à se dégager comme un étang qu'on vide, la pente naturelle du terrain entraînant les eaux vers la mer, et plusieurs points du terrain plus élevés que les autres commençant à reparaître comme après un déluge. Le limon fangeux de ces eaux roulantes avait couvert toutes les campagnes, et c'était un triste spectacle que de voir, au fur et à mesure que le vent soulevait le voile de vapeur étendu sur la plaine, une cinquantaine de cavaliers enfonçant dans la fange et tentant de gagner sans pouvoir y réussir, soit le bourg, soit la colline. De la colline, on avait entendu leurs cris de détresse, et voilà pourquoi les trompettes sonnaient incessamment. Dès que le vent eut cessé de chasser le brouillard, Henri aperçut sur la colline le drapeau de la France, se déroulant superbement dans le ciel. Les gendarmes hissaient de leur côté la cornette d'Aunis, et de part et d'autre on entendait des feux de mousqueterie tirés en signe de joie. Vers 11 heures, le soleil apparut sur cette scène de désolation, desséchant quelques parties de la plaine et rendant praticable la crête d'une espèce de chemin de communication. Henri, qui essayait ce sentier, fut le premier à s'apercevoir, au bruit des fers de son cheval, qu'une route pavée conduisait, en faisant un détour circulaire, du bourg à la colline. Il en conclut que les chevaux enfonceraient par-dessus le sabot, jusqu'à mi-jambe, jusqu'au poitrail peut-être, dans la fange, mais n'iraient pas plus avant, soutenus qu'ils seraient par le fond solide du sol. Il demanda de tenter l'épreuve, et comme personne ne lui faisait concurrence dans ce dangereux essai, il recommanda à l'enseigne Remy et sa compagne, et s'aventura dans le périlleux chemin. En même temps qu'il partait du bourg, on voyait un cavalier descendre de la colline, et comme Henri le faisait tenter de son côté de se mettre en chemin pour se rendre au bourg. Tout le versant de la colline qui regardait le bourg était garni de soldats spectateurs qui levaient leurs bras au ciel et semblaient vouloir arrêter le cavalier imprudent par leurs supplications. Les deux députés de ces deux tronçons du grand corps français poursuivirent courageusement leur chemin, et bientôt ils s'aperçurent que leur tâche était moins difficile qu'ils ne l'eussent pu craindre et surtout qu'on ne les craignait pour eux. Un large filet d'eau, qui s'échappait d'un aqueduc crevé par le choc d'une poutre, sortait de dessous la fange et lavait, comme à dessein, la chaussée bourbeuse, découvrant sous son flot plus limpide le fond du fossé que cherchait l'ongle actif des chevaux. Déjà les cavaliers n'étaient plus qu'à 200 pas l'un de l'autre. « France ! » cria le cavalier qui venait de la colline, et il leva son toquet ombragé d'une plume blanche. « Oh, c'est vous !» s'écria Henri, avec une grande exclamation de joie. « Vous, monseigneur ! Toi, Henri, toi, mon frère !» s'écria l'autre cavalier. Et au risque de dévier à droite ou à gauche, les deux chevaux partirent au galop se dirigeant l'un vers l'autre, et bientôt, aux exclamations frénétiques des spectateurs de la chaussée et de la colline, les deux cavaliers s'embrassèrent longuement et tendrement. Aussitôt, le bourg et la colline se dégarnirent, gendarmes et chevaux légers, gentilshommes huguenots et catholiques, se précipitèrent dans le chemin ouvert par les deux frères. Bientôt, les deux camps s'étaient joints, les bras s'étaient ouverts, et sur le chemin où tous avaient cru trouver la mort, on voyait 3 000 Français crier « Merci au ciel et vive la France !»« Messieurs, dit tout à coup la voix d'un officier huguenot, c'est « Vive monsieur l'amiral qu'il faut crier, car c'est à monsieur de Joyeuse et non à un autre que nous devons la vie cette nuit et ce matin le bonheur d'embrasser nos compatriotes. » Une immense acclamation accueillit ces paroles. Les deux frères échangèrent quelques mots trempés de larmes. Puis le premier, et le duc, demanda Joyeuse à Henri. « Il est mort à ce qu'il paraît, répondit celui-ci. La nouvelle est-elle sûre? Les gendarmes d'Aunis ont vu son cheval noyé et l'ont reconnu à un signe. Ce cheval tirait encore à son étrier un cavalier dont la tête était enfoncée sous l'eau. « Voilà un sombre jour pour la France, » dit l'amiral. Puis, se retournant vers ses gens, « Allons, messieurs, » dit-il à haute voix, « ne perdons pas de temps. Une fois les eaux écoulées, nous serons attaqués, très probablement. Retranchons-nous jusqu'à ce qu'il nous soit arrivé des nouvelles et des vivres. »« Mais, monseigneur, » répondit une voix, « la cavalerie ne pourra marcher. Les chevaux n'ont point mangé depuis hier 4 heures, et les pauvres bêtes meurent de faim. » « Il y a du grain dans notre campement, » dit l'enseigne, « mais comment ferons-nous pour les hommes ?»« Eh, reprit l'amiral, « s'il y a du grain, c'est tout ce que je demande. Les hommes vivront comme les chevaux. »« Mon frère, » interrompit Henri, « tâchez, je vous prie, que je puisse vous parler un moment. »« Je vais aller occuper le bourg, » répondit Joyeuse, « choisissez-y un logement pour moi et m'y attendez. » Henri alla retrouver ses deux compagnons. « Nous voilà au milieu d'une armée, » dit-il à Remy. « Croyez-moi, cachez-vous dans le logement que je vais prendre. Il ne convient point que madame soit vue de qui que ce soit. Ce soir, lorsque chacun dormira, j'aviserai à vous faire plus libre. » Remy s'installa donc avec Diane dans le logement que leur céda l'enseigne des gendarmes, redevenu par l'arrivée de Joyeuse simple officier aux ordres de l'amiral. Vers 2 heures, le duc de Joyeuse entra, trompette sonnante, dans le bourg, fit loger ses troupes, donna ses consignes sévères pour que tout désordre fût évité. Puis, il fit faire une distribution d'orge aux hommes, d'avoine aux chevaux et d'eau à tout le monde, distribua aux blessés quelques tonneaux de bière et de vin que l'on trouva dans les caves, et lui-même, à la vue de tous, dîna d'un morceau de pain noir et d'un verre d'eau, tout en parcourant les postes. Partout, il fut accueilli comme un sauveur par des cris d'amour et de reconnaissance. « Allons, allons, » dit-il au retour, en se retrouvant seul avec son frère, « viennent les Flamands et je les battrai, et même, vrai Dieu, si cela continue, je les mangerai, car j'ai grand faim, » et ajouta-t-il tout bas à Henri en jetant dans un coin son pain dans lequel il avait paru mordre avec tant d'enthousiasme, « voilà une exécrable nourriture. » Puis, lui jetant les bras autour du cou, « Ça, maintenant, ami, causons, et dis-moi comment tu te trouves en Flandre quand je te croyais à Paris. » « Mon frère, » dit Henri à l'amiral, « la vie m'était devenue insupportable à Paris, et je suis parti pour vous retrouver en Flandre. »« Toujours par amour ?» demanda Joyeuse. « Non, par désespoir. Maintenant, je vous jure, Anne, je ne suis plus amoureux. Ma passion, c'est la tristesse. » « mon frère, » s'écria Joyeuse, « permettez-moi de vous dire que vous êtes tombé sur une misérable femme. »« Comment cela ?»« Oui, Henri, il arrive qu'à un certain degré de méchanceté ou de vertu, les êtres créés dépassent la volonté du Créateur et se font bourreaux et homicides, ce que l'Église réprouve également. » Aussi, par trop de vertu, ne pas tenir compte des souffrances d'autrui, c'est de l'exaltation barbare, c'est une absence de charité chrétienne. « Oh, mon frère, » s'écria Henri, « ne calomniez point la vertu. »« Oh, je ne calomnie pas la vertu, Henri, j'accuse le vice et voilà tout. Je le répète donc, cette femme est une misérable femme, et sa possession, si désirable qu'elle soit, ne vaudra jamais les tourments qu'elle te fait souffrir. Eh, mon Dieu, C'est dans un pareil cas qu'on doit user de ses forces et de sa puissance, car on se défend légitimement, bien loin d'attaquer. Par le diable, Henri, je sais bien qu'à votre place, moi, je serais allé prendre d'assaut la maison de cette femme. Je l'aurais prise elle-même, comme j'aurais pris sa maison. Et ensuite, lorsque, selon l'habitude de toute créature domptée, qui devient aussi humble devant son vainqueur qu'elle était féroce avant la lutte, lorsqu'elle serait venue jeter ses bras autour de votre cou, en vous disant « Henri, je t'adore », alors je l'eusse repoussé en répondant « Vous faites bien, madame, c'est à votre tour et j'ai assez souffert pour que vous souffriez aussi. » Henri saisit la main de son frère. « Vous ne pensez pas un mot de ce que vous avancez là, joyeuse, lui dit-il. « Si, par ma foi. Vous, si bon, si généreux. » Générosité avec les gens sans cœur, c'est du prix, frère. Oh, joyeuse, joyeuse, vous ne connaissez point cette femme. Mille démons, je ne veux pas la connaître. Pourquoi cela? Parce qu'elle me ferait commettre ce que d'autres nommeraient un crime et que je nommerais, moi, un acte de justice. Oh, mon bon frère, dit le jeune homme, avec un angélique sourire, que vous êtes heureux de ne pas aimer. Mais, s'il vous plaît, monsieur l'amiral, laissons là mon fol amour et causons des choses de la guerre. Soit aussi bien, en parlant de ta folie, tu me rendrais fou. Vous voyez que nous manquons de vivres. Je le sais, et j'ai déjà pensé aux moyens de nous en procurer. Et vous avez trouvé? Je pense que oui. Lequel? Je ne puis bouger d'ici avant d'avoir reçu des nouvelles de l'armée, attendu que la position est bonne et que je la défendrai contre des forces quintuples. Mais je puis envoyer à la découverte un corps d'éclaireurs. Ils trouveront des nouvelles d'abord, ce qui est la vie véritable des gens réduits à la situation où nous sommes, des vivres ensuite, car en vérité, cette Flandre est un beau pays. Pas trop, mon frère, pas trop. Oh, je ne parle que de la terre telle que Dieu l'a faite, et non des hommes qui éternellement gâtent l'œuvre de Dieu. Comprenez-vous, Henri, quelle folie ce prince a faite, quelle partie il a perdue, comme l'orgueil et la précipitation l'ont ruiné vite ce malheureux François. Dieu a son âme, n'en parlons plus, mais en vérité, il pouvait s'acquérir une gloire immortelle et l'un des plus beaux royaumes de l'Europe, tandis qu'il a fait des affaires. De qui? De Guillaume le Sournois. Au reste, savez-vous, Henri, que les Anversois se sont bien battus? Et vous aussi, à ce qu'on dit, mon frère? Oui, j'étais dans un de mes bons jours, et puis il y a une chose qui m'a excité.
Laquelle?
C'est que j'ai rencontré sur le champ de bataille une épée de ma connaissance.
Un Français?
Un Français.
Dans les rangs des Flamands?
À leur tête. Henri, voilà un secret qu'il faut savoir pour donner un pendant à l'écartèlement de Salcède en place de grève. Enfin, cher seigneur, vous voici revenu sain et sauf à ma grande joie. Mais quoi? Moi, je n'ai rien fait encore, il faut bien que je fasse quelque chose aussi.
Et que voulez-vous faire?
Donnez-moi le commandement de vos éclaireurs, je vous prie.
Oh, non, c'est en vérité trop périlleux, Henri. Je ne vous dirai pas ce mot devant des étrangers, mais je ne veux pas vous faire mourir d'une mort obscure et, par conséquent, d'une laide mort. Les éclaireurs peuvent rencontrer un corps de ces vilains flamands qui guerroient avec des fléaux et des faux. Vous en tuez mille, il en reste un. Celui-là vous coupe en deux ou vous défigure. Non, Henri, non. Si vous tenez absolument à mourir, je vous réserve mieux que cela.
Mon frère, accordez-moi ce que je vous demande, je vous en prie. Je prendrai toutes les mesures de prudence et je vous promets de revenir ici.
Allons, je comprends.
Que comprenez-vous? Vous voulez essayer si le bruit de quelque action d'éclat n'amollira pas le cœur de la farouche. Avouez que c'est cela qui vous donne cette insistance.
J'avouerai cela si vous voulez, mon frère.
Soit, vous avez raison. Les femmes qui résistent à un grand amour se rendent parfois à un peu de bruit.
Je n'espère pas cela.
Triple fou que vous êtes alors, si vous le faites sans cet espoir.
Tenez, Henri, ne cherchez pas d'autre raison au refus de cette femme, sinon que c'est une capricieuse qui n'a ni cœur ni lieu.
Vous me donnez ce commandement, n'est-ce pas, mon frère?
Il le faut bien, puisque vous le voulez.
Je puis partir ce soir même?
C'est de rigueur, Henri, vous comprenez que nous ne pouvons attendre bien longtemps.
Combien mettez-vous d'hommes à ma disposition?
Cent hommes, pas davantage. Je ne puis dégarnir ma position. Henri, vous comprenez bien cela. Au moins, si vous voulez, mon frère. Non pas, car je voudrais pouvoir vous en donner le double. Seulement, engagez-moi votre parole d'honneur que si vous avez affaire à plus de 300 hommes, vous battrez en retraite au lieu de vous faire tuer. Mon frère, dit en souriant Henri, vous me vendez bien cher une gloire que vous ne me livrez pas. Alors, mon cher Henri, je ne vous la vendrai ni ne vous la donnerai. Un autre officier commandera la reconnaissance. Oh, mon frère, donnez vos ordres, je les exécuterai. Vous n'engagerez donc le combat qu'à force égale, double ou triple, mais vous ne dépasserez point cela. Je vous le jure. Très bien, maintenant quel corps voulez-vous avoir? Laissez-moi prendre 100 hommes des gendarmes d'Aunis. J'ai bon nombre d'amis dans ce régiment, et en choisissant mes hommes, j'en ferai ce que je voudrais. Va pour les gendarmes d'Aunis. Quand partirai-je? Tout de suite. Seulement, vous ferez donner la ration aux hommes pour un jour, aux bêtes pour deux. Rappelez-vous que je veux avoir des nouvelles promptes et sûres. Je pars, mon frère. Avez-vous quelque ordre secret? Ne répandez pas la mort du duc. Laissez croire qu'il est à mon camp. Exagérez mes forces, et si vous retrouvez le corps du prince, quoique ce soit un méchant homme et un pauvre général, comme à tout prendre il était de la maison de France, faites-le mettre dans une boîte de chêne et faites-le rapporter par vos gendarmes, afin qu'il soit enterré à Saint-Denis. Bien, mon frère, est-ce tout ? C'est tout. Henri prit la main de son aîné pour la baiser, mais celui-ci le serra dans ses bras. Encore une fois, pouvez-vous me promettre, Henri, dit Joyeuse, que ce n'est point une ruse que vous employez pour vous faire tuer bravement? Mon frère, j'ai eu cette idée en venant vous rejoindre, mais cette pensée, je vous le jure, n'est plus en moi. Et depuis quand vous a-t-elle quitté? Depuis 2 heures. À quelle occasion? Mon frère, excusez-moi. Allez, Henri, allez, vos secrets sont à vous. Oh, que vous êtes bon, mon frère. Et les jeunes gens se jetèrent une seconde fois dans les bras l'un de l'autre et se séparèrent, non sans retourner encore la tête l'un vers l'autre, non sans se saluer du sourire et de la main.